France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit public. Aujourd'hui, 25 ans de Big Bang politique et le rêve américain, une déprime française. Nos débatteurs ce dimanche, Anne-Lorraine Bugeon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro sorti, Troubles dans la santé mentale. Marc Lazare, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louis de Rome. Laetitia Stroge-Bonnard, bonjour.
Bonjour.
Essayiste, éditorialiste, votre dernier ouvrage chez Perrin, De la France, ce pays que l'on croyait connaître. Et notre invité cette semaine, Jérôme Fourquet, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP, vous avez publié Métamorphose française, État de la France en infographie et en images. C'est publié au Seuil et c'est justement à certaines de ces métamorphoses que nous allons nous intéresser ce dimanche et ce dans le cadre de la programmation spéciale de France Culture pendant ces fêtes. Programmation consacrée aux grands enseignements de ce premier quart de siècle. Je précise d'ailleurs que cette émission est enregistrée le 20 décembre. En 25 ans, donc un quart de siècle qui ont vu la société française s'imprégner de plus en plus des codes et de la culture américaine. Un phénomène d'américanisation concomitant avec le renforcement de la société de consommation. Est-ce pour notre plus grand bénéfice ou notre plus grand désarroi? Nous en débattrons. Mais pour commencer, replongeons-nous dans quelques-uns des moments clés de la vie politique française du début de ce siècle, en 2000, en 2002 et en 2005.
Bonjour. Le prochain président français sera élu pour 5 ans. Le oui au quinquennat l'emporte largement, mais cette victoire est éclipsée par une abstention record, près de 70%. Jacques Chirac affirme sa volonté de poursuivre la modernisation de la vie politique.
Il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Énorme surprise, donc Jean-Marie Le Pen serait au second tour. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55%. La victoire du non est incontestable.
Trois dates importantes, donc 2 octobre 2000. La réforme constitutionnelle soumise à référendum entérine la limitation de la durée du mandat présidentiel. Celui-ci passe de 7 à 5 ans. Le calendrier est ainsi fait désormais que la présidentielle précède de quelques jours le scrutin des législatives, un changement institutionnel important dont un des intérêts consiste à limiter, voire abolir, les périodes de cohabitation. 21 avril 2002, séisme électoral. Contre toute attente, Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour de la présidentielle. Lionel Jospin, le Premier ministre sortant, n'arrive que troisième. Il est éliminé de la course. 15 jours plus tard, Jacques Chirac survole le second tour et embraye pour un deuxième mandat, de 5 ans donc cette fois. Le leader du Front National est sévèrement battu, mais loin de mettre un terme à la progression de l'extrême droite, l'élection de 2002 sert de balise à l'irrésistible ascension du parti d'extrême droite. 29 mai 2005, cette fois, à 54,67% des voix, soit une majorité confortable. Le non l'emporte au référendum français sur le traité constitutionnel européen. Les Français rejettent le texte. Nouveau choc électoral après une campagne que le camp du oui a peut-être un peu trop considérée comme une formalité. Un choc qui va laisser des traces dans le paysage politique, notamment à gauche, et qui va installer le ressentiment dans une partie de l'électorat après que le texte rejeté est malgré tout appliqué via le traité de Lisbonne. Alors l'espace de 5 ans, le début du 21e siècle, aura donc été marqué en France par 3 événements politiques majeurs dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Crise institutionnelle, crise démocratique, centralité du RN. Les convulsions politiques actuelles, évidemment, ne se réduisent pas aux seules conséquences de ces épisodes du passé. Mais n'en gardent-elles pas des traces? 2024 qui s'achève est-elle en partie l'héritière du Big Bang politique du début des années 2000. Et sur ces trois dates, Jérôme Fourquet, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'il y en a une qui vous paraît plus importante que les autres? La réforme du quinquennat, Jean-Marie Le Pen au second tour, ou bien le rejet du traité constitutionnel européen?
Alors, symboliquement, vous l'avez rappelé, 2002, c'est quand même une date qui a marqué énormément les esprits. même si l'avance de Jean-Marie Le Pen par rapport à Lionel Jospin, qui était fini troisième, n'était que de 200 000 suffrages, donc ce qui n'était pas énorme, mais c'était, et votre sonore le rentrait bien, c'était une énorme surprise, un coup de tonnerre. Donc je pense que là, c'est une date très importante dans notre histoire politique. Et puis 2005, également, puisque elle a acté l'existence d'une nouvelle ligne de clivage qu'on avait déjà vu se dessiner 13 ans plus tôt lors du référendum de Maastricht en 1992, avec les tenants du oui et les tenants du non. Et quand on faisait les cartes électorales de ces deux référendums, eh bien, on ne retrouvait pas nos petits, si je puis dire. C'est-à-dire que ça correspondait plus, cette ligne de clivage, au cadastre historique de l'opposition entre la gauche et la droite, dans la mesure où les deux camps historiques en France s'étaient déchirés sur cette question référendaire. Et derrière celle-ci, il y avait la question de la construction européenne et de l'entrée dans la mondialisation, en fait.
Est-ce qu'on peut faire d'ailleurs un lien entre 2002 et 2005, c'est-à-dire qu'on peut considérer peut-être aussi comme des votes de défiance, défiance qui continue aujourd'hui d'être extrêmement présente dans l'électorat?
Oui, en partie, avec la mécanique propre à un référendum qui fait que des voix qui jamais ne se mêleraient en temps habituel peuvent converger. Et donc, bien évidemment, lors du référendum de 2005, une bonne partie du camp du non était composée d'électeurs qui venaient du Front National. Mais il y avait une puissante composante de gauche aussi à ce non, N-O-N, qui a permis la bascule et la victoire du non le 29 mai.
Alors, je dois vous dire que c'est en apprenant que France Culture faisait cette série sur le quart de siècle qu'on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui a pu être marquant au niveau politique, et qu'on s'est rendu compte, même si on le savait, que dans en l'espace de très peu d'années, il y avait eu ces trois événements absolument majeurs. Lorraine Bujon, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce que nous connaissons du paysage politique est aussi le résultat de ces trois événements? C'est-à-dire, est-ce qu'il en reste des traces?
Oui, moi je trouve ça très intéressant que vous ayez rapproché ces trois événements donc de la première décennie du 21e siècle, et on voit très bien comment ils se poursuivent jusqu'à la situation politique qu'on connaît aujourd'hui. On pourrait parler aussi, en plus de ce que Jérôme Fourquet vient d'évoquer, de la disqualification progressive des partis politiques traditionnels, en fait, au profit de campagnes politiques beaucoup plus centrées sur une personnalité, avec ses effets de personnalisation du pouvoir et de candidats qui essayent, en fait, de s'adresser directement au peuple, quoi. Et on se dit que les héritiers de cette première séquence du 21e siècle en France aujourd'hui, ce serait Marine Le Pen et plus Jean-Marie, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. On voit bien, voilà, cette très forte personnalisation du pouvoir avec une disqualification progressive des partis politiques, peut-être parce que les clivages se brouillent, qu'ils ne sont plus les mêmes qu'autrefois, gauche-droite. Mais sur cette question européenne, j'ai trouvé ça très très intéressant parce que en effet, je pense qu'on voit beaucoup les traces de ce vote de 2005 et du sentiment qu'il n'avait pas été respecté. Moi, dans mes souvenirs personnels, en fait, 2005, ça a été vraiment aussi un choc sur le plan du traitement médiatique ou de nouvelles formes de, peut-être que le mot est très fort, mais de séparatisme social et spatial. Enfin, en fait, de découvrir que plus de la moitié des Français ne votaient pas comme moi, en fait. Donc, c'est très personnel, hein, comme mais une sorte de choc de « mais comment est-ce possible, puisque tout le monde autour de moi est de cette opinion, que la moitié de la France ne le soit pas ?» Donc j'étais peut-être très naïve ou très candide, mais je pense...
C'est vrai qu'à l'époque, sur ce qu'on appelle les grands médias, le « oui » était quand même censé l'emporter, sauf dans les derniers jours, on s'est rendu compte quand même que les courbes risquaient de s'inverser, mais qu'il y avait une campagne peut-être pour le « non » qui se faisait dans des endroits un peu plus alternatifs, disons.
Voilà, donc là, je pense qu'il y a eu une structuration de l'espace politique qui est nouvelle et qui conduit là où nous en sommes aujourd'hui, mais aussi de l'espace médiatique, avec cette question de où est-ce que les gens s'informent, où est-ce qu'ils discutent, où est-ce que leurs opinions politiques se Laforge. C'était aussi un moment très enthousiasmant du point de vue de la démocratie, parce qu'on en parlait partout de ce traité constitutionnel au café. Enfin, donc c'était un moment de bouillonnement. Mais moi, je suis très frappée sur cette question européenne de voir que cette montée de l'extrême droite, donc pour laquelle 2002 est une date importante, paradoxalement, beaucoup plus près de nous, elle s'est jouée dans les instances européennes. Et dans la dernière séquence qu'on a connue, donc on a vu cette extrême droite s'implanter progressivement et faire passer son discours anti-mondialisation ou un discours nationaliste précisément depuis le cœur des institutions européennes. Donc là, il y a un retournement que je trouve intéressant à regarder sur la durée.
Je me tourne à présent vers l'historien de notre studio, Marc Lazard. C'est-à-dire, qu'est-ce que, selon vous, 2024 doit à 2000, 2002 et 2005? Est-ce que le choix de ces dates vous paraît pertinent? J'ai été un peu validé par Anne-Lorraine Bujon, que je remercie. Est-ce que l'historien en dira autant?
Je vous mettrai 10 sur 20, Gérard Regardet. Non, dans le sens, moyenne, je suis sévère. Non, mais je vous explique pourquoi. Vous savez, le grand historien Paul Venn expliquait que tous les choix de dates ont une part d'arbitraire. Et évidemment, vous avez pris trois dates qui ont une signification. Mais on aurait très bien pu mettre aussi le 11 septembre 2001.
Oui, moi je
vais peut-être vous choquer, mais justement, parce que on y reviendra sur l'américanisation, la France, justement, à partir déjà depuis les années 70, hein, ce qu'on appelle, il y a un livre très important dans les historiographies qui s'appelle The Shock of Global, dans les années 70, donc on est de plus en plus interconnecté. Le 11 septembre 2001, je crois que ça a eu un effet considérable parce que ça soulève la question de l'islamisme et on voit bien, mais ça, Jérôme, ou me confortera ou me démentira, mais on voit très bien que du coup tourne la question de la religion musulmane, la diversité de l'association des musulmans à l'islamisme politique et au terrorisme qui va frapper la France en plus à partir de 2015. Mais on aurait pu prendre aussi la date de la faillite de Lehman Brothers et donc de toutes les conséquences à la fois économiques, sociales, financières que ça représentait pour toute l'Europe, dont pour la France.
Mais tout ça n'aurait pas... Ça a eu, selon vous, des conséquences sur la nature du débat politique en France?
Bien évidemment, parce que justement, pour prendre le 11 septembre 2001, évidemment, toute la dénonciation par des partis, en l'occurrence que moi j'appelle d'extrême droite ou de droite radicale maintenant, est un élément important et va être au cœur du débat politique. Ils ont réussi, ces partis-là, à mettre cela au cœur de l'agenda politique. Donc voilà, mais peu importe cette question, j'allais dire cette réflexion, mais c'est vous qui m'avez interpellé, cher Hervé, et donc je réagis à ça. Non, je voudrais ajouter quelque chose sur le référendum, parce que je crois que c'est très important pour les raisons qui ont été rappelées, mais pour une autre, parce que je crois que sans caricaturer, on peut dire que les principaux partis étaient en faveur du oui, même si certains d'entre eux étaient divisés, d'ailleurs les deux principaux, dont le Parti Socialiste, et le Parti Socialiste très important à l'époque, avec quand même un choix qui a été fait, qui est un choix de pure tactique politique, et qui a été fait en fonction de sa perspective présidentielle. Je fais allusion bien sûr au choix de Laurent Fabius de rompre l'unité du parti pour appeler à voter non, alors qu'on savait qu'il était en faveur du traité constitutionnel. Enfin, c'est quelque chose qui a marqué profondément le Parti Socialiste et ses électeurs, donc c'est pas simplement la gauche radicale, mais la tonalité globale des médias, c'était il faut voter oui, c'était j'allais dire dans les élites, hein, politiques, médiatiques, culturelles. Moi, je me rappelle de débats que Mario Monti m'avait demandé d'organiser à Sciences Po, Mario Monti, Dominique Strauss-Kahn, cherchant à convaincre assez facilement les étudiants de Sciences Po à voter oui, mais évidemment, il n'y a pas que les étudiants de Sciences Po qui votent dans un référendum de ce type-là. Non, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est le fait que c'est parti de ce professeur, justement, dans le sud de la France qui a décortiqué
le traité constitutionnel et qui avait...
Et qui a eu un effet considérable. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous démontrait que quelque chose, j'allais dire, surgissait du bas pour monter et pour interpeller le haut et obtenir la victoire l'opposition. Choix français qui a eu un effet considérable sur toute l'Europe. Il a été d'ailleurs repris ensuite par les Néerlandais, hein, qui ont voté quelques jours après contre le traité et qui a bloqué le traité, même si on peut considérer qu'il a été récupéré par le traité de Lisbonne, même si c'est en fait beaucoup plus compliqué. Non, je termine avec deux réflexions. Ce qui est commun à ces trois dates, et en son sens, c'est un très bon choix, c'est d'un côté ce que ça signifie de la défiance politique et deuxième élément, de la déstructuration des principaux partis politiques.
Laetitia Strauss-Bonnard.
Alors, de ces trois dates, j'aurais mis ensemble 2002 et 2005. Et si je ne devais en choisir qu'une, j'aurais choisi 2005. Je pense que c'est un peu le péché originel de la vie politique française du XXIe siècle. Je m'explique, le fait que le résultat de 2005 n'ait pas du tout été accepté et mis en œuvre par la classe politique française. Quoi qu'on en pense, la majorité des Français ont voté non. Pour la constitution, pour une constitution européenne. Et deux ans plus tard, en fait, le traité, sous une forme un peu modifiée, hein, le traité de Lisbonne a repris quand même l'essentiel des dispositions de cette constitution. Et à partir de là, j'ai l'impression que tout est allé en s'empirant parce que le déni, le sentiment de déni de démocratie, n'était pas qu'un sentiment. Quand vous votez pour quelque chose, que vous êtes majoritaire et qu'ensuite on vous explique que non, vous n'avez pas bien compris qu'en fait l'Europe doit être encore plus unifiée et encore plus homogène, que c'est l'avenir pour notre pays que d'être intégré à un tel ensemble, eh bien vous vous sentez forcément délaissé. Donc j'ai du mal à comprendre pour ma part pourquoi on n'a pas accepter ce résultat. Pourquoi ça fait des années, parce que ça va faire 20 ans, qu'on continue à essayer de dire aux gens qu'ils votent mal quand ils sont, allez, nationalistes ou à tout le moins patriotes et plus patriotes que l'élite peut l'être. Parce que même si on partage pas les choix de cette majorité, il faut quand même accepter qu'on vit dans le même pays. Donc je pense que tout ce qui a suivi ensuite, c'est-à-dire la montée progressive du Rassemblement national, s'explique en partie par ce déni et aussi par un déni qui va de pair avec celui-là, qui est les conséquences de l'immigration sur la France, qui au départ était dénoncée de façon absolument radicale et xénophobe par Jean-Marie Le Pen et qui petit à petit en fait s'est retrouvée à être un sujet mainstream parce que l'immigration a continué à augmenter. Ses conséquences ont continué à être compliquées, mais surtout, c'est devenu un sujet qui a concerné de plus en plus de gens, pas seulement les 10% ou 15% de xénophobes qui pouvaient voter pour le RN, mais ou le FN à l'époque, mais aujourd'hui, plus de la majorité des électeurs français. Donc moi, je parlerai pas forcément d'un Big Bang, ou plutôt je parlerai d'un Big Bang suivi d'une inaction assez incompréhensible face à ces demandes populaires. Et ça se reproduit très souvent. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était un petit peu aussi une forme d'expression, une volonté d'être entendu, la volonté d'une France qu'on appelle un peu rapidement, mais je pense à juste titre, une France périphérique, d'être entendue, d'exister. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait semblant de les écouter. Le président de la République a fait un grand débat, il a parcouru la France, il a fait des discours en bras de chemise. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Et on s'étonne encore aujourd'hui du score du Rassemblement national aux élections ou dans les sondages.
Jérôme Fourquet, je rappelle que vous êtes le directeur du département opinion de l'IFOP. Cette notion de déni de démocratie, est-ce que ça, c'est quelque chose qui ressort justement dans les enquêtes d'opinion ?
Oui, alors en partie encore aujourd'hui, bien évidemment de la part de ceux qui avaient voté non, les autres sont assez à l'aise avec la pratique. Ça s'est manifesté aussi beaucoup plus ponctuellement, par exemple dans le département de la Loire-Atlantique. Ce n'est pas un référendum à proprement parler, parce qu'on n'avait pas le droit de l'appeler comme ça, mais le département de Loire-Atlantique avait organisé une consultation, on dirait en Suisse, on dirait une votation, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'était un dimanche, plus de la moitié des habitants inscrits sur les listes électorales de ce département sont allés voter, se sont déplacés, donc ils continuaient de croire en l'acte démocratique. Le scrutin qui a été organisé avait donné une majorité d'habitants de ce département qui étaient favorables à la construction et à la poursuite du chantier de Notre-Dame-des-Landes, et pour tout un tas de raisons, on a décidé de ne pas le faire, d'arrêter ce projet. Donc là aussi, ça ancrer cette idée que le vote n'était pas respecté. Et vous voyez comment cet argument est repris aujourd'hui très régulièrement par les représentants du nouveau Front populaire à l'issue des élections législatives de l'été 2024. Et quand ils disent que, bien qu'elle n'étant pas majoritaire dans l'hémicycle, la règle démocratique aurait voulu que le président se tourne vers eux pour la constitution du gouvernement. Et donc on a quand même cette idée d'un vote sur lequel les élites peuvent s'asseoir. Alors sur 2005. C'est pour ça que moi j'avais pris aussi la référence à 1992. On a aussi le sentiment dans toute une partie de la classe politique qu'on a des poussées de fièvre comme cela lors des référendums européens, mais qu'ensuite les choses rentraient dans l'ordre. Parce que 2 ans
92, après... 92, je rappelle, c'est Maastricht.
Voilà, deux ans après 2005, on a l'élection présidentielle de 2007 où les deux finalistes, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui sont bien élus au premier tour, eh bien, étaient des représentants du camp du oui. Et le troisième candidat qui arrivait en troisième position était François Bayrou, qui était bien évidemment, conformément à la longue tradition pro-européenne de son parti, favorable au oui. Et donc, ce résultat n'a pas effacé 2005, mais il a pu alimenter l'idée chez certains responsables politiques qu'en fait, la fièvre était retombée et qu'on pouvait repartir sur des schémas classiques. En fait. Or, il n'en était rien et souterrainement, la faille a continué de travailler et remonter à la surface des années plus tard.
Alors, il y a une fièvre démocratique, il y a aussi une fièvre institutionnelle qui est souvent évoquée. Il y a cette première date que je vous proposais qui était celle de la réforme constitutionnelle faisant passer la durée du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Jacques Chirac est le premier à en bénéficier. Et depuis des années, on répète très souvent quand même que le quinquennat, c'est aussi un peu le ver dans le fruit et que l'inversion du calendrier électoral en plus a renforcé la personnalisation du pouvoir. Est-ce que ça n'est pas finalement, avec le recul, 25 ans de recul, Anne-Lorraine Bugeon, un mauvais procès qu'on fait au quinquennat? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, le président de la République soit particulièrement fort politiquement. C'est plutôt presque l'inverse. Est-ce qu'on n'a jamais eu un président aussi faible ?
Alors, quand même, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, cette inversion du calendrier et la réduction du mandat présidentiel à 5 ans, elle est allée dans le sens de cette présidentialisation, personnalisation, focalisation sur une personnalité plutôt que les partis politiques. Mais cette personnalisation, si vous voulez, elle est forcément à double tranchant. C'est-à-dire que on peut essayer d'être une incarnation charismatique. Après, au moment où on passe au fait d'être détesté, ça se retourne complètement contre vous. Mais je dirais que si, enfin, la France est dans un régime ultra-présidentiel où tout le monde est focalisé. On le voit bien dans la séquence actuelle. On nous promettait un renouveau de la vie parlementaire et c'est pas du tout ça qui s'est produit. Tout le monde ne pense déjà que à la prochaine échéance présidentielle. Donc, de ce point de vue-là, oui, je pense que cette décision a renforcer ça. Mais moi, je trouve cette question institutionnelle très intéressante aussi quand on s'interroge là-dessus sur 25 ans et ce que ça veut dire sur 25 ans, parce que bien sûr, il y a des particularités françaises, bien sûr, la 5e République et des tas de choses intéressantes à dire et avons-nous besoin d'une réforme institutionnelle ? Et en même temps, je suis très frappée de ce que l'essentiel des phénomènes politiques à l'œuvre en France aujourd'hui sont également à l'œuvre chez nos voisins, en Europe et dans le monde. Et en fait, exactement comme Marc Lazare, sur votre choix de date, je les trouve très intéressantes et elles font réfléchir, mais moi j'avais mis un autre jeu de date à côté.
Vous m'aviez mis une meilleure note peut-être.
J'avais également mis 2001 et j'avais mis 2008-2009, la crise financière mondiale, et puis j'avais mis 2015 pour la crise de l'accueil des réfugiés syriens. Et en fait, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est qu'on parle d'une France depuis le début du XXe siècle, qui 21e siècle, qui est quand même déjà très ouverte sur l'Europe et sur le monde, et donc il y a l'évolution propre de notre vie politique, et elle ressemble quand même beaucoup à celle de nos voisins, y compris ceux qui ont des institutions très différentes des nôtres. Donc moi, ça m'interroge quand on se dit, alors pour résoudre la crise démocratique française, faudrait-il réformer les institutions ? Pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, qui ont des systèmes politiques très très différents des nôtres, connaissent aussi cette poussée de fièvre et qui vient beaucoup d'un rejet de la mondialisation libérale ? Enfin, et c'est pour ça que je pense que cette date de 2008-2009 est très importante, qu'on le situe du côté du rejet des inégalités, du capitalisme, de la société néolibérale, ou qu'on le situe du côté du rejet de l'immigration ou des influences étrangères sur notre propre culture. Tout ça, ça ressemble quand même à une réaction contre la mondialisation libérale pour laquelle 2008-2009 me semble être une date clé.
Vous êtes d'accord avec ça, Laetitia Tourbonneur? Il faut élargir la focale si on veut comprendre les soubresauts.
Je suis d'accord, mais je nuancerai. Je suis d'accord, complètement d'accord avec le fait qu'il y a quelque chose de mondial, en tout cas, ou qui concerne l'Occident. Une réaction, comme vous l'avez très bien décrite, à la mondialisation telle qu'elle existe. Après, il me semble que le cas français est pire encore, parce que à ce problème général, il ajoute les spécificités des mots français qui ont toujours été, notamment en politique, un pouvoir ultra centralisé, et aujourd'hui il n'a jamais été aussi centralisé. Et vous posez la question, Hervé Gardet, du paradoxe entre la présidentialisation et un pouvoir faible. Mais pour moi, ça n'est pas un paradoxe, en fait. Un pouvoir présidentiel excessif, c'est forcément un pouvoir faible, parce que le président ne peut pas tout faire. Or, aujourd'hui, on lui demande tout. C'était révélateur pendant les Gilets jaunes. Les micro-trottoirs nous montraient des gens qui demandaient que Emmanuel Macron règle leur situation personnelle. C'était très frappant. Et bien sûr qu'il ne peut pas. Le pire, c'est quand un président, comme Emmanuel Macron, pense qu'il le peut et se met à vouloir répondre à toutes les demandes. Donc, c'est absolument infaisable. Dans d'autres systèmes moins présidentiels, je trouve qu'il y a quand même une petite flexibilité supplémentaire. Si on prend le système britannique, par exemple, oui, alors, il sort de plusieurs années de crise après le vote du Brexit, parce que ça a été très, très difficile pour eux, en fait, de prendre acte des conséquences concrètes d'un point de vue législatif, réglementaire du Brexit. Mais tout de même, il y a une alternance. Quoi qu'on en pense, au bout d'un moment, quand même, la politique accouche de quelque chose, parce que leur système parlementaire leur permet quand même de se débarrasser des premiers ministres qui ne conviennent pas, et puis de se débarrasser des premiers ministres tout court quand il s'agit d'avoir une alternance. Donc le mal français, en quelque sorte, est un petit peu exacerbé par la situation d'aujourd'hui. Et vous parliez de la réforme de 2000, la réforme du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral. Il y a quelque chose d'assez ironique, et qu'on a cru rendre la politique française plus efficace dans ces années-là, en la calquant sur des modèles où on élit un parlement et on se retrouve avec un chef d'État à l'issue de ce vote. Sauf qu'à la fin, on se retrouve avec finalement un système plus centralisé qu'avant, et une politique qui n'est pas efficace comme on le souhaiterait, et quasiment une forme d'impuissance politique. En France, on a l'impression qu'on ne peut jamais rien faire. Parce que quand on donne le pouvoir à un parti ou à une personne pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes, à partir du moment où il est au pouvoir, là, ça devient soudain très compliqué, même s'il a été majoritaire dans les urnes. Il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux.
Marc Lazare.
Non, c'est intéressant l'évolution de notre conversation, parce que je crois que ça nous permet de réfléchir sur la singularité française, effectivement. Enfin, il y a des points communs, par exemple. Moi, j'en vois quatre. Le premier sur, évidemment, la question institutionnelle. Alors, c'est vrai ce que vous avez rappelé, Anne-Lorraine, il y a un processus global de présidentialisation, médiatisation et personnalisation de la politique, et la France n'y échappe pas, et c'est même accentué par la Ve République. Mais le tout dans un climat de double défiance. C'est pour ça que la date du référendum est très bien choisie. J'essaie de me rattraper sur ma sévérité antérieure. Parce que c'est la défiance à la fois d'une partie du bas, j'ai envie de dire, et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, les responsables politiques ne veulent plus utiliser le référendum. Ça, c'est une transformation complète de la pratique institutionnelle du général de Gaulle, et même de la réussite qu'avait fait le général de Gaulle de concilier le système monarchique et le système républicain. Donc c'était très très astucieux, même d'un point de vue de philosophie politique. Mais quand on réfléchit à cette singularité française, on est obligé d'élargir. Il y a la dimension économique et sociale, et notamment la question de la désindustrialisation, qui est phénoménale en France, parce qu'on a fait le choix d'être une société de service. C'est pas le choix des Allemands, en ce moment ils sont pas très bien, pas le choix des Italiens, qui sont les deux puissances industrielle de l'Union européenne. Et puis, évidemment, il y a toutes les autres questions, notamment celle, mais on va l'aborder, ça va être une habile transition, du sentiment du déclin et de la réalité du déclin français. Et ça, je crois que ça travaille très profondément, justement, ce quart de 21e siècle.
Voilà, justement, est-ce que ce sentiment de déclin a à voir en partie avec l'américanisation de la société française, telle que vous la décrivez dans votre livre « Métamorphose française », Jérôme Forquet, c'est justement notre deuxième sujet, on y vient tout de suite.
France Culture, l'esprit public, Hervé Gardet.
C'est
C'est avec une heure d'avance sur l'horaire initialement prévu que le royaume de Mickey a ouvert ses portes ce matin au public afin de permettre une meilleure fluidité du trafic en direction de Marne-la-Vallée. Très rapidement, le vaste parking de 12 000 places a été envahi par la première vague de visiteurs avides de découvrir les merveilles de ce monde de l'imaginaire inventé par le génial Walt Disney.
Ouais, vous y étiez peut-être le 12 avril 1992 à l'inauguration en grande pompe d'Euro Disney du côté de Marne-la-Vallée en région parisienne. Un temple exclusivement dédié aux loisirs, directement importé des États-Unis. Une usine à rêve. Tandis que quelques jours plus tôt, une autre usine, bien française celle-là, venait de fermer ses portes. Le 31 mars de la même année, Renault-Billancourt cesse toute activité. Deux événements qui, comme vous l'écrivez, Jérôme Fourquet, symbolisent de manière spectaculaire le passage d'une économie de la production à une économie de la consommation. On peut aussi y voir, et c'est sans doute lié, l'accélération d'un autre phénomène qui remonte au moins à l'après-guerre, celle de 39-45, mais qui va s'affirmer de plus en plus à partir des années 80, l'américanisation de la société française. Plus la peine d'aller aux États-Unis, nous en avons adopté la plupart des codes. Codes vestimentaires, le streetwear, codes alimentaires avec leurs cordes de fast-food et de burgers, codes marketing avec les succès commerciaux d'Halloween et du Black Friday, codes culturels bien sûr, de Taylor Swift à la dance country, en passant par les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, jusqu'à nos enfants qui portent des prénoms américains, jusqu'à nos débats intellectuels imprégnés de wokisme et de gender studies. Alors évidemment, un tel tableau est à rien caricatural, on pourrait aussi bien lister tout ce que nous empruntons à d'autres cultures que celles venues des États-Unis, à l'Asie, à l'Afrique, au monde arabo-musulman, au reste de l'Europe, bref, à la mondialisation qui n'est pas hégémonique. Reste que l'influence des États-Unis sur nos modes de vie pèse de plus en plus. Alors au-delà du constat, faut-il y voir un problème, le signe d'une perte d'identité, une cause du sentiment de déclin qui s'est tempéré de la société française, notre fascination pour les États-Unis paradoxalement teinté d'anti-américanisme, est-elle un problème? Nous en discutons donc en compagnie de Marc Lazare, Laetitia Stroche-Bonnard, Anne-Lorraine Bujon et Jérôme Fourquet. C'est un chapitre important de votre ouvrage, Jérôme Fourquet, Métamorphose française, cette américanisation, qui n'est pas nouvelle. J'évoquais l'après-guerre 39-45, les GI, les chewing-gums, le plan Marshall, enfin Hollywood.
Oui.
Qu'est-ce qui change? Alors vous faites partir ça des années 80. En quoi ça s'accélère et pourquoi?
Alors, ça s'accélère pour plusieurs raisons et par plusieurs canaux, notamment via, vous avez parlé d'Hollywood, via l'influence qu'on appelle aujourd'hui, en bon français, les blockbusters. Donc, je suis allé regarder les films qui faisaient plus d'un million d'entrées en salle, les films de cinéma qui faisaient plus d'un million d'entrées dans l'année de leur sortie. Et on voit que c'est à partir milieu des années 80 qu'une majorité de ces films seront systématiquement américains. Et on se score de 50 à 60% de films les plus populaires en France venant des États-Unis n'a jamais redescendu depuis. Et donc on voit comment, avec le cinéma, mais aussi avec les séries, hein, les années 80, c'est Dallas que certains d'entre nous ont pu regarder, comment, quand on parle d'imaginaire, bien il y a le mot « image », hein, donc c'est ces images qui se diffuse. C'est aussi la période d'intensification, enfin de développement de modes alimentaires qui viennent droit des États-Unis. On rappelle qu'aujourd'hui McDonald's a la France comme deuxième marché mondial, hein, ce qui est quand même assez spectaculaire. Et avec un temps de, j'allais dire, d'incubation, on a vu comment au début des années 90, nous avons atteint un pic dans la prénomination des nouveau-nés avec des prénoms anglo-saxons qui a atteint jusqu'à 12% des naissances au début des années 90. Hein, c'est les grandes années des Kevin, des Jordan et des Dylan qui aujourd'hui sont arrivés à l'âge adulte et certains ont même maintenant des responsabilités dans des partis politiques éminents.
Et il n'y a pas eu de reflux de cette américanisation depuis ou bien elle s'est installée finalement et qu'on la constate à ce point-là, quoi.
Moi, j'observe, c'est que en fait cette américanisation s'est infusée dans tous les ports de la société française et qu'on n'a même plus forcément conscience de cette réalité-là et que les vagues culturelles suivantes reprennent aujourd'hui les mêmes codes sans effacer la couche américaine que j'appelle moi la couche Yankee qui s'est déposée de manière très épaisse dans le pays aujourd'hui. Et on revient sur la politique un instant. Vous voyez, moi j'étais très frappé comment en 2022, quand aux États-Unis, la Cour suprême américaine a abrogé le fameux arrêt Roe versus Wade, et donc qui a remis en cause l'accès libre à l'IVG dans tous les États américains, et donc charge à chaque État américain de légiférer sur cette question. Comment il y a eu un consensus immédiat dans la classe politique française pour constitutionnaliser l'IVG ici en France, alors que quand vous regardez, on n'a jamais pratiqué autant d'IVG en France qu'aujourd'hui, que 75% des Français sont favorables au droit à l'IVG, et qu'aucun courant politique ou philosophique ou religieux puissant en France ne mène la bataille politique ou idéologique sur cette question-là. Et on a une classe politique qui a réagi un peu de manière comme si inconsciemment elle se considérait comme étant en charge du 51e État américain en disant qu'à partir du moment où l'arrêt Roe versus Wade est tombé, il fallait très vite qu'on constitutionnalise ce droit à l'IVG.
Encore un mot, Jérôme Fourquet, avant de faire réagir Anne-Laurine Bujon, Marc Lazare et Laetitia Stroche-Bonnard. Ce que je trouve très intéressant, c'est dans votre livre, vous dites que le succès donc du rêve américain de l'American Dream, c'est d'avoir su produire des versions adaptées à chaque île de l'archipel français, en gros à chaque catégorie de la population. C'est-à-dire, il y en a pour les intellos parisiens, il y en a pour les gens qui habitent à la campagne avec la Downs Country, il y en a pour les banlieues, il y en a pour tout le monde, et c'est pas forcément la même américanisation.
Non, c'est des déclinaisons, vous voyez, typiquement, si on prenait des références géographiques. Certains, quand on va parler d'Amérique, c'est New York. D'autres, ça va être le Monument de Valley, ça va être la Route 66, la fameuse. D'autres, ça va être la Californie. Et donc, ce pays-continent a su, encore une fois, diffuser des facettes de son imaginaire qui permettent à tout à chacun d'avoir son propre rêve américain, parfois même de manière inconsciente.
Alors, nous avons quelqu'un qui connaît bien les États-Unis ici, c'est vous, Anne-Laurine Bujon, spécialiste justement de la culture américaine. Cette américanisation, d'abord, est-ce que vous en partagez le constat avec Jérôme Fourquet? Est-ce que c'est un succès des États-Unis? Ou bien est-ce que ça peut être aussi vu comme un succès de la France que d'avoir su digérer et régurgiter aussi une partie de la culture américaine, mais à la mode française?
Oui, alors... Donc oui, je partage le constat et le questionnement, en fait, à quel point est-ce que cette mondialisation est une américanisation ou est-ce que c'est plus compliqué également. Je trouve très intéressant ce que vient de dire Jérôme Fourquet sur la variété, en fait, et la diversité des imaginaires américains dans lesquels on peut puiser. Parce que ce qui me frappe aussi, c'est que la France, en fait, a toujours été partagé dans un rapport amour-haine avec les États-Unis. Il faut renvoyer à cet excellent livre de Philippe Roger sur l'anti-américanisme français. Donc c'est un pays qu'on adore détester et donc qui nous sert, qu'il a à la fois sa part, il est à la fois attrayant et totalement repoussant, suivant les époques ou suivant ce à quoi on s'attache. Et l'énorme succès de la culture américaine, je crois que vient aussi du fait que ce sont quand même, c'est quand même un imaginaire démocratique. Donc après, on peut reparler des États-Unis qu'on adore détester. Mais dans la culture populaire, la musique, le cinéma, les séries télé, c'est quand même c'est un imaginaire, une culture qui est accessible à tout le monde. Et donc, il y en a pour tout le monde. Donc s'interroger pourquoi la France, qui est évidemment le pays de la gastronomie, se passionne pour le McDonald's. Enfin voilà, il y a des paradoxes là, mais moi j'ai trouvé.
À tel point d'ailleurs que maintenant dans n'importe quel restaurant, vous trouverez des hamburgers. Alors ils seront adaptés, mais.
Et beaucoup plus proche de nous, la crise du Covid, en fait, a achevé de nous américaniser dans le sens où tout ce qui est nourriture à emporter, en fait, c'est devenu absolument généralisé. Donc ça et le fait que les dames puissent aller travailler en basket. Effectivement, nous sommes très américanisés. Mais rappelez quand même que ce pouvoir d'attraction, il vient d'une culture qui est avant tout très démocratique et que je pense que quand cette américanisation nous déprime, ce qui nous déprime, et je reviens à quelque chose qu'on a évoqué dans la première partie de l'émission, je crois que c'est quand même la marchandisation de tout et cette société de consommation et une société de concurrence et de compétition que moi j'associe plutôt à l'Amérique néolibérale, si vous voulez, depuis les années Reagan. Mais il faudrait dire que Margaret Thatcher avait aussi sa part de responsabilité. Et si on se dit, mais oui, en fait, c'est cette Amérique néolibérale où tout est marchandise, tout est compétition, tout est concurrence, et on est dans une société d'individus atomisés, voilà. Les États-Unis n'ont pas toujours été néolibéraux, et ils ne sont pas les seuls à l'être aujourd'hui. Et donc, je crois que la part des États-Unis qui nous fait rêver, c'est peut-être, ça n'est peut-être pas celle-là.
Anne-Claire Bazin, qui prépare la documentation chaque semaine, qui va chercher des articles sur les thèmes qu'on aborde, fait ce travail sur l'américanisation. Et figurez-vous qu'elle est tombée sur un article d'une certaine Laetitia Strauss-Bonnin. Oui, c'est vous. Vous avez l'air totalement étonnée quand je vous regarde. Pourquoi l'américanisation n'est pas un fantasme? Vous avez publié ça. C'était en janvier 2021 dans l'hebdo. Oh, 2021, oui, c'est pas si loin. C'était dans Le Point. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous adhérez à cette idée que la société française est très largement américanisée. Mais alors là, vous alliez surtout, vous, sur le plan des idées. C'était moins sur la consommation que
tout
sur la façon dont le débat intellectuel américain imprègne le débat français.
J'évoquais la pénétration des idées essentiellement progressistes américaines dans le débat public français. Donc, je faisais allusion à toutes les studies. Vous avez cité les gender studies tout à l'heure, mais il y en a plein. Bien sûr, au wokisme. Alors, mot que je trouve absolument laid. D'ailleurs, c'est une francisation intéressante parce que les Américains ne parlent pas de wokisme. Ils parlent de wokeness ou ils disent woke. Donc, c'est vraiment intéressant quand même qu'on arrive à franciser ce genre de choses. Oui, clairement.
Et qui n'est pas assumé par ceux qui sont censés en être les porteurs. C'est-à-dire, en général, c'est plus une accusation que... Un signe d'appartenance revendiqué.
Tout à fait, mais en tout cas, c'est une conception identitaire de la société, mais selon des identités qui ne sont pas des identités, disons, nationales ou régionales, mais plutôt, moi je nommerais existentielles, c'est-à-dire le genre, l'appartenance ethnique, enfin bref, le wokisme, vous savez, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Clairement, il y a un phénomène de contagion intellectuelle. Pourquoi ? Parce que la mondialisation, c'est aussi celle des idées, c'est celle des réseaux sociaux, c'est celle des livres. On a accès aujourd'hui à tout ce qui se fait partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, beaucoup plus facilement qu'avant. Et ensuite, toutes les idées ne voyagent pas aussi bien que les autres. Il y a des débats passionnants aux États-Unis, il y a des chercheurs, des intellectuels, enfin, il y a une vie intellectuelle extrêmement riche qui, malheureusement, n'est pas du tout connue en France, on n'en parle pas, parce que peut-être qu'on importe ce qui est le plus simple, donc on importe le fast-food et on importe le wokisme, c'est un peu le burger de la pensée, peut-être, je ne sais pas.
C'est pas mal comme formule.
Donc cette américanisation-là, oui, elle existe. Ensuite, l'américanisation de la culture populaire, bien évidemment, elle existe aussi. Et ce qui me frappe, peut-être, vous me direz si mon hypothèse est bonne, Jérôme Fourquet, c'est qu'il y a des choses qu'on arrive à intégrer et à franciser. Par exemple, le McDonald's à la française est assez différent du McDonald's américain. Le McDonald's américain est assez sale, pas très bien fréquenté, pas très bon. Les McDonald's français, je trouve, sont tout à fait acceptables. Et on y trouve des salades. Et ça, alors qu'aux États-Unis, la salade n'a pas du tout marché. C'est-à-dire qu'ils ont lancé, je crois, la salade en 1987. Et ça a fait un flop. Alors qu'en France, vous pouvez prendre une salade au McDonald's.
Et on peut manger assis. Ce qui est une hérésie dans l'empire McDonald's, parce que on a repris les codes français, c'est-à-dire qu'on mange du burger, mais quand on mange en France, en général, on s'assoit, même quand on est en restauration hors domicile. Si on ne mange pas chez soi, en général, souvent, on essaie de s'asseoir.
Tout à fait. Donc ça, c'est assez positif, je trouve, cette francisation. Il y a d'autres choses qui me laissent un petit peu plus, disons, circonspectes, comme le Black Friday, parce que là, en fait, on importe quelque chose qui est complètement hors sol. On ne l'importe pas avec l'environnement culturel qui va avec.
Ceux qui auraient échappé à cette déferlante, cette période de solde.
C'est une période difficile d'y échapper.
Compliqué, mais on ne sait jamais.
Mais qui suit le jeudi de Thanksgiving. Et qu'est-ce que c'est Thanksgiving? C'est, pour certains Américains, la fête la plus importante de l'année, parce que c'est le moment où on voit ses amis, sa famille, ses proches, et on leur dit, enfin, on les remercie, on a de la gratitude envers eux, on fait un grand dîner. Et le lendemain, bon, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais c'est devenu un rituel d'aller faire des courses. Et bien sûr, à l'américaine, on fait tout en très grand. Mais nous, on importe ça en Europe de façon absolument hors sol, parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'est Thanksgiving. Et donc, on se dit, ah tiens, il y a de grosses soldes, c'est le Black Friday, c'est génial. Et là, je vous rejoins, Lorraine Bujon. C'est simplement de la consommation pour la consommation.
Bon alors Marc Lazare, est-ce que ça veut dire qu'on a été totalement envahi par une forme d'impérialisme culturel américain et est-ce que ça participerait aussi de notre sentiment de déclin à nous, aux Français ?
Alors, je pense que d'abord les données fournies par Jérôme Fourquet dans ce livre sont absolument formidables. C'est-à-dire, vraiment, on apprend beaucoup de choses et je constate aussi que, me semble-t-il, il n'y a qu'en France qu'on a ce débat. En Europe. C'est-à-dire que dans tous les pays de l'Europe sont soumis à cette influence américaine. Moi, en Italie, on n'a pas ce genre de débat. Et pourtant, il y a une pénétration américaine du cinéma, beaucoup plus difficilement de McDo.
Oui, parce que sur l'alimentation, justement, je pense que...
J'allais venir. Voilà. Mais non, je vous en prie.
Non, allez-y, allez-y.
Donc, je pense qu'il faut prendre... D'abord, il y a une particularité française. Et il y a un sentiment d'inquiétude qui est lié sans doute à ce sentiment, à cette réalité du déclin français, aussi à la confrontation entre deux universalismes. Et ça, ça a été dit par Philippe Roger dans son livre. Ça a été dit aussi, il y a un autre livre très important qu'on peut citer ici, puisque je me rappelle, je crois que c'était dans ce studio qu'on avait eu un dialogue avec lui, Jean-François Revel, qui avait fait un livre sur l'anti-américanisme. Donc, je crois qu'il faut faire très attention par ce qu'on entend par américanisation. Si c'est pour dire qu'il y a une importation directe, qu'il y a une sorte de made in US et qui est complètement dominant aujourd'hui, je pense que c'est une erreur. Parce que, justement, il y a des tas de possibilités, notamment, il y a des tas de réalisations dans la culture populaire, d'adaptation, de transformation, de mutation. Et puis, on n'est pas ouvert simplement à cette culture américaine, fût-elle très importante. Dans le propre livre de Jérôme, il y a des données très intéressantes. Apparemment, une énorme proportion, plus de 76% des jeunes, mangent du kebab, par exemple. C'est tout à fait intéressant de voir ça. Dans le même ouvrage, vous démontrez, avec les données que vous nous fournissez, vous montrez la persistance des cultures régionales. Et donc, on voit très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut aller voir du film américain avant tout. On peut boire du Coca-Cola à longueur de journée. On peut manger du McDo.
Du Coca breton.
On peut avoir tout ce qui coche dans l'attitude « je suis américanisé ». Appeler son fils Jordan ou je ne sais pas trop, Kevin, très bien. D'écouter de la musique américaine, d'aller... Je ne savais même pas que ça existait, la dance country. Moi, dans mon petit village de Bourgogne, je peux vous assurer qu'il ne la danse pas. Hein. Bon, et en même temps, être un grand patriote et un grand défenseur, voter pour le Rassemblement National, ça n'empêche pas. Donc, c'est voter pour d'autres partis. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ces formes de métissage, ces formes d'adaptation, ces formes, d'assimilation d'un côté, mais aussi de métabolisation de cette culture américaine. Et puis, il faut jamais oublier un autre élément qui a été démontré notamment par un livre de Ludovic Tournais sur l'américanisation que vous citiez dans cet article du Point, qui est très intéressant parce qu'il montre aussi l'influence européenne sur les États-Unis. Et par exemple, en matière de cinéma, il y a beaucoup de remakes qui sont faits à partir des succès français. Donc, je crois que d'avoir une idée que d'un côté, il y a la culture américaine. Bien sûr que l'American soft power est hyper puissant. Il a détruit, par exemple, en France, la culture. Il a contribué à défaire la culture communiste en France comme en Italie. Hein, ça, c'est incontestable. Jérôme, dans une de ses interviews, vous rappeliez que le Parti communiste, au moment de la guerre froide, avait fait cette campagne contre le Coca-Cola. La France ne sera pas Coca-Cola. Vous avez oublié de dire que ceux qu'il soutenait, c'était tous les producteurs de limonadiers français qui licenciaient les militants communistes et cégétistes dans leurs usines, à commencer par M. Ricard. Donc, c'est parce qu'il y avait une défense, effectivement, des produits français. Mais encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que je crois que cette américanisation, elle est réelle, mais qu'il faut la comprendre aussi, en tout cas pas comme une importation directe et mécanique. Mais je ne crois pas que c'est ce que vous disiez, bien sûr.
Jérôme Fourquet, d'ailleurs, juste avant de vous laisser répondre à tout ce qui vient d'être dit, juste qu'on fasse une petite parenthèse quand même sur cette question de la dance country, qui peut paraître quelque chose d'assez accessoire, mais qu'on voit qu'il y a quand même, sauf là où habite peut-être Marc Lazare, mais une imprégnation de cette culture-là. Mais comment on peut expliquer ça, c'est-à-dire dans le monde rural, c'est vrai qu'il y a des clubs de danse comme ça et qui sont très développés aujourd'hui.
Alors j'ai essayé de. Alors c'est intéressant parce que j'ai pas trouvé de travaux universitaires sur ce sujet-là parce que c'était sous radar. Donc j'ai pris ma lampe un peu de spéléologue et j'ai essayé d'aller fouiller. Donc il y a pas mal de blogs de passionnés de dance country qui racontent comment tout ça a été importé en France et on retombe sur Disney. On retombe sur Disney parce que les premiers spectacles de dance country ont été réalisés dans des saloon du parc Disney. Et donc, des gens sont allés regarder ces spectacles. Et ensuite, tout ça a essaimé dans différentes communes françaises. Il y avait également un autre foyer en Alsace, avec des gens qui allaient voir des spectacles de country sur les bases militaires américaines en Allemagne. De l'autre côté de la frontière, on a là aussi cette pente de fascination pour l'univers du Far West. Vous avez il y a eu à Mirande pendant très longtemps dans le Gers un grand festival de musique country. Et donc il y a tout cet univers qui s'est diffusé un peu sous les radars parce que encore une fois on retombe sur cette idée, c'est-à-dire que c'est une certaine France plutôt périphérique qui a choisi cette variante de l'American Dream.
Au point qu'on a l'impression que c'est presque devenu un folklore traditionnel de ces endroits-là, c'est-à-dire, mettons en Auvergne, on va danser la danse country plutôt que la bourrée auvergnate.
Mais vous ne croyez pas si bien dire, moi je suis originaire de la Sarthe, et donc je m'étais intéressé à tout ça, et donc j'avais constaté qu'il y avait encore des comices agricoles dans la Sarthe. Donc on s'est dit, voilà, il y a des choses, il y a une culture française rurale qui domine, et bien dans chaque comice, il y a le bal de country. Donc voilà, donc tout ça s'hybride.
Hybridation, c'est le bon mot.
Très fortement. Et donc, je recommande aussi à tous vos auditeurs d'aller voir le magnifique film qui s'appelle Enfant phare, qui se passe dans le Nord Pas-de-Calais. Et à un moment, il y a une concurrence pour avoir accès à la salle municipale entre la vieille fanfare des mineurs du bassin minier et le club de country local qui répète à la même heure. Voilà, donc on voit comment tout ça s'est hybridé en l'espace de quelques décennies.
Anne-Laure Bégeant.
Non, mais ce qui est très intéressant, et ça prolonge vraiment les propos de Marc Lazare et de Jérôme Fourquet, c'est que la danse country aux États-Unis, c'est une sous-culture, c'est pas du tout partagé, c'est pas du tout pratiqué partout. Enfin, je veux dire, si vous êtes à la Nouvelle-Orléans et que vous proposez un square dance, c'est une insulte. Hein. C'est une danse donc du Far West, d'endroits très ruraux, très blancs. Donc c'est pas la culture américaine, c'est une sous-culture américaine. Et moi, en regardant ces cartes qui sont très intéressantes dans le livre de Jérôme Fourquet, et c'est toujours très intéressant d'entrer, je trouve, dans la réalité sociale et politique actuelle par les cartes, parce qu'on voit que de plus en plus, en fait, une nouvelle stratification sociale qu'on comprend encore mal correspond à une répartition des populations dans l'espace. On a vu ça dans nos élections récentes, mais dans l'élection récente aux États-Unis aussi. Donc, il faut vraiment regarder les cartes pour comprendre comment la société aujourd'hui est stratifiée. Le livre est très intéressant pour ça, mais j'ai beaucoup pensé aussi au livre récent d'Olivier Roy, L'aplatissement du monde, qui est aussi une réflexion sur la mondialisation et sur le mélange et l'hybridation des cultures. Et ce qu'Olivier Roy explique très bien, c'est que en fait, aujourd'hui, avec cette circulation d'un certain nombre de productions culturelles, il n'y a plus de culture dominante, il n'y a plus que des sous-cultures. Mais donc, vous avez celle des fans de manga qui va coexister avec les gens qui pratiquent le yoga ou la dance country. Et donc, il n'y a plus effectivement qu'une série de bulles culturelles avec leur code propre et un peu décroché effectivement du substrat qui pouvait leur donner tout leur sens. Donc là, voilà, il y avait le Black Friday qui était lié avec Thanksgiving. En devenant un phénomène mondial, il se décroche de Thanksgiving et donc il perd aussi beaucoup de son sens. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, je trouve, en France comme ailleurs, c'est de voir se développer une série de sous-cultures qui cohabitent sans forcément se référer au même grand système de sens.
Laetitia Strelbonheur, vous vouliez aussi réagir à la question de la dance country?
Alors non, pas forcément sur la dance country, mais je voulais revenir sur la question de la fascination pour les États-Unis. Ça se comprend qu'ils soient fascinants. Ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels par leur économie, par leur richesse, par leur système politique, même s'il a quand même quelques imperfections. Mais c'est normal. Et je dirais même la figure de l'entrepreneur est fascinante aux États-Unis. C'est la figure du pionnier. Et donc il y a quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'admiration et qui, à mon avis, est complètement transclasse. C'est-à-dire qu'on peut regarder et s'identifier depuis la France, quel que soit son milieu d'origine, d'appartenance, parce qu'il n'y a pas ce snobisme un peu aristocratique européen. Les États-Unis, quand même, c'est le pays de la démocratie moderne. C'est pourquoi je voulais aussi revenir sur le premier qui a lancé cette mode de l'éloge critique de l'Amérique, c'est Tocqueville. de la démocratie en Amérique, 1940, si je ne me trompe pas, pour la première, ou 41 pour la...
1841
pour la première édition. Et je crois que c'est 1850 pour le tome 2. J'espère que les auditeurs de France Culture ne m'en voudraient pas si je me trompe. Mais c'est déjà là. C'est-à-dire que Tocqueville les regarde en disant c'est incroyable, en fait, la démocratie qui pour lui signifie l'égalité, en fait. L'esprit de l'égalité est partout. Il est en train de rentrer partout, dans toutes les couches de la société. Et ça va venir chez nous. Et en même temps, il est terrifié. Il s'alarme et il s'inquiète de ce qu'il appelle l'individualisme. Le terme apparaît est assez nouveau, hein. C'est quasiment lui qui l'invente. Donc je pense qu'on est encore dans ce grand moment qui est ce mélange d'admiration et de critique, mais je pense aussi que aujourd'hui nous le vivons assez mal parce que nous-mêmes nous sommes dans une forme de, alors, déclin, je ne sais pas, ou en tout cas de décadence.
Justement, je voulais vous poser la question, Jérôme Fourquet, ensuite Marc Lazare, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire un lien entre ce phénomène d'américanisation concomitant aussi avec donc ce que vous décrivez dans votre ouvrage La fin d'une société de la production qui va vers une société de la consommation, et avec ce sentiment qu'on voit étude après étude d'un déclin français partagé par de plus en plus de personnes.
Alors, on parlait avec Marc Lazare de la situation en Italie, deux grands pays avec la France de gastronomie. Et je connais pas bien l'Italie, mais de ce que j'ai vu et lu, j'ai le sentiment que ce pays a conservé un attachement à sa gastronomie quotidienne ou familiale beaucoup plus important que ici en France. Et vous parliez des États-Unis comme un pays démocratique versus une Grande-Bretagne ou une France qui aurait été assez en caste ou en élite. Et on voit, si je reviens sur la gastronomie, comment par exemple nous avons exporté la haute cuisine, la grande gastronomie. Les Italiens ont exporté la pizza qu'on consomme aussi massivement en France. Et donc il y a sans doute ce sentiment en France que nous avons été et nous ne sommes plus. Et quand on fait toutes les enquêtes, les sondages, 80% des Français ont le sentiment que le pays est en déclin. Marc Lazare rappelait la réussite industrielle italienne, qui est souvent vue avec un peu de dédain par certains Français. Or, il y aurait beaucoup de choses à regarder en Italie. Et moi, je me dis souvent que si ce sentiment de déclin est aussi aigu en France, c'est pas forcément parce qu'il est plus, nous avons plus décliné que d'autres, mais c'est parce que pendant plus longtemps, nous nous sommes vécus comme une grande puissance, alors que les Italiens, les Espagnols avaient intégré déjà depuis longtemps qu'ils étaient devenus des puissances moyennes. Et donc, le fait que nous en prenions conscience aujourd'hui est plus aigu peut-être qu'ailleurs.
Marc Lazare.
Une observation gastronomique et une réflexion au fond. Alors, gastronomique, vous avez raison, Jérôme, les Italiens ont inventé, ont essayé de combattre le fast-food, et ils ont donc inventé le slow-food. Et le slow-food, ça veut dire justement, c'est Carlo Petrini qui a inventé ça, c'est-à-dire on va justement manger que ce que l'on peut produire près de chez nous. On n'importe pas du monde entier et on vise la qualité et on prend le temps. Et résultat, les restaurants McDonald's, si vous les voyez en Italie, très souvent, ils sont très discrets. Parce que, par exemple, à Rome, il y en a un sur la Piazza d'Espagne qu'on voit visiblement, mais sinon, ils doivent s'intégrer dans le paysage architectural des villes, ce qui est une intéressante idée d'hybridation, justement. Deuxième point, toujours sur la gastronomie, le plat préféré des Français pendant longtemps a été... Le couscous.
Le couscous, oui.
Alors maintenant, j'ai vu dans une récente enquête de 2022 que c'était passé en troisième position, le couscous, oui, derrière le poulet frit qui était revenu. Mais le quatrième, c'est la pizza. Donc on voit là aussi, par ces petits exemples, justement, ces formes d'hybridation, le fait que, bien sûr, c'est incontestable, cette énorme attractivité, cette fascination pour les États-Unis qui s'accompagne aussi d'un sentiment d'hostilité à l'égard des États-Unis, mais qui a cette, justement, ouverture de la France à différentes cultures. Mais je pense que la question de fond, oui, c'est le rapport, moi aussi je suis d'accord avec le déclin français, ce sentiment et cette réalité. Il y a un critère. C'est la perte de diffusion de la langue française dans le monde. Malgré le fait que la francophonie est toujours là, mais c'est flagrant dans le monde entier quand on se promène de voir le recul de la diffusion de notre langue, malheureusement.
Et je vous remercie de ne pas avoir abusé des anglicismes aujourd'hui, malgré notre thème lié à l'américanisation. Merci beaucoup à tous les quatre, Anne-Lorraine Bujon, Marc Lazare, Laetitia Strauss-Bonnard et Jérôme Fourquet. Je rappelle votre dernier ouvrage, Métamorphose française, publié au Seuil, émission de l'Esprit public préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisé par Luc Jean Reno, avec à la prise de son Grégory Vallon. Je rappelle que cette émission a été enregistrée le 20 décembre et qu'on se retrouve l'année prochaine, donc nous serons en janvier 2025. Bonne fête à toutes et tous.